honte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon et Marie Blanc, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique Florent Beauvalet. La gourmandise de ce matin, c'est l'œuvre foisonnante du dessinateur, graphiste et affichiste polonais Janusz Stanet, qui fut aussi professeur aux Beaux-Arts de Varsovie, auteur de livres pour enfants, réalisateur de dessins animés et caricaturiste pour la presse. Ses dessins, au graphisme ludique et charmant, provoquent chez le sujet qui les contemple une imprévisible réjouissance. Moustache, couronne, chien, homme penché, tout être ou objet figuré par l'artiste semble heureux. Une joie simple et communicative émane de chaque illustration, vers lesquelles nous mettrons bien évidemment un lien sur le site. Né à Beyrouth pendant la guerre civile, notre apothicaire de l'âme assouvit son amour du dessin en étudiant d'abord le graphisme à l'Académie libanaise des Beaux-Arts, puis l'animation aux Arts Déco de Paris. Créatrice d'une œuvre à la fois ode à sa ville natale et mémoriale de papier, elle voit le dessin comme un moyen de capter ce qui disparaît. Ses bandes dessinées ou romans graphiques sont faits d'hypnotiques noirs et blancs, cousins de ceux de David B. En plus d'interroger les mémoires et de transcender le réel, notre apothicaire illustre parfois les autres. Elle vient d'imaginer avec l'écrivain Mathias Sénard un album paru chez Casterman sous le nom Prendre Refuge. C'est ce que nous essaierons de faire dans l'heure qui vient. Bonjour Zena Abirached.
Bonjour.
Première question, vous vous y attendez. Zena Abirached, quel est votre rapport à la mélancolie?
Alors la mélancolie, elle n'est jamais tout à fait loin. C'est un sentiment que j'aime bien en réalité, dont j'ai un peu peur aussi parfois. Souvent, que j'essaye de, d'appréhender, que j'aime bien explorer en fait. C'est un sentiment qui me sert souvent à, même en toile de fond, à dessiner. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais je me rends compte que c'est souvent assez présent, même en filigrane, dans le regard que je pose sur les choses et dans ma façon de travailler aussi. Même si au résultat, il peut y avoir des pages qui sont tout à fait gaies et enlevées, rythmées, je sais que la mélancolie fait partie de la recette, en tout cas.
C'est ce qu'on perçoit, Zena Abirached, dans votre œuvre. Vous êtes venue en France volontairement pour trouver un éditeur, oui. Mais une fois la guerre finie, malgré le fait que ce soit un exil volontaire, il y a toujours une nostalgie d'être exilé. Exilé, ça peut être sentimental, intellectuel, c'est pas forcément subi, mais... Il y a cette nostalgie qu'on retrouve d'ailleurs dans votre œuvre.
Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai choisi de venir en France en 2004 pour chercher un éditeur, donc pour me construire en tant qu'artiste, en tant qu'auteur de bande dessinée. Donc c'était tout à fait prémédité, décidé et désiré, ça, surtout. Je suis partie à 23 ans. Je suis arrivée à Paris, une ville que je connaissais déjà, mais où je n'avais jamais vécu. Et c'est sûr qu'à partir de là, la nostalgie s'est invitée dans mon rapport à ma ville natale, à Beyrouth. Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'y retourne, elle est aussi très présente quand j'y suis. Même quand je suis à Beyrouth, les moments où je profite des quartiers que je connais, de la lumière, des couleurs, de l'architecture que je connais par cœur, la nostalgie est toujours un peu là. Alors, ceci dit... ce sont des grands mots, hein. Mélancolie, nostalgie, c'est un petit peu effrayant. Moi, je les vois plus comme vraiment comme des choses qui me traversent de façon sans forcément s'installer, autour desquelles je tourne.
Mais Zena Abirached, dans votre dernier ouvrage fait avec Mathias Sénard, Prendre Refuge, il y a ce personnage très touchant de Syrienne qui est à Berlin, oui. Et qui a une trop grande nostalgie de son pays.
Oui, alors Nayla est une jeune femme qui est née à Alep, donc ville détruite aujourd'hui, et qui se retrouve à Berlin. Et au moment de prendre refuge, enfin au moment de l'histoire qu'on raconte, Mathias Hénard et moi, elle vient d'arriver à Berlin. Donc ce sont vraiment ses premiers pas dans ce nouveau territoire, dans cette nouvelle langue dont elle ne maîtrise ni les codes, ni les habitudes, ni la subtilité. Et ce sont vraiment les premiers moments où elle porte encore en elle Alep et tout ce monde qu'elle a dû quitter. Et donc forcément, on s'installe comme ça une espèce de, comment dire, de dichotomie entre la réalité qu'elle vit au quotidien et ses souvenirs, la mémoire de sa ville, de sa langue, et quelque chose de l'ordre du fantasme d'une vie qu'elle ne vit plus. Du coup, la question, c'est est-ce qu'elle a vraiment de la place pour le présent, en tout cas à ce moment-là du récit.
Dans Prendre refuge, on voit le versant mélancolique de cet exil, mais lorsqu'on lit vos interviews, Zeina Birached, on voit le négatif positif, c'est-à-dire on voit de l'humour. Et j'ai lu par exemple cette phrase qui m'a fait beaucoup rire, vous dites... Pendant mes premières années en France, j'avais l'impression d'être un pois chiche. À chaque fois qu'on faisait ma connaissance, on me parlait du houmous.
Oui, c'est vrai. Oui, oui, bah oui. Non, évidemment, l'humour. Oui, oui, bien sûr. Oui, en effet, bah, les premiers... Bon, c'est toujours beaucoup plus drôle d'essayer de prendre un peu de recul et de justement d'avoir une lecture un peu humoristique de ce qui nous arrive.
Je crois qu'on n'a pas le choix.
Oui, hein. Enfin, c'est un peu la seule façon
d'éviter le précipice. Oui, évidemment. Bon, alors là, j'annonce quand même quelques antidotes aux auditeurs pour éviter le précipice. Zeina Birached, dans quelques instants, vous allez convoquer Le Roi et l'Oiseau, Peter Sellers, Titien, Velázquez, Bosch, Vermeer, Liran, La Syrie, Gaston Lagaffe, Don Giovanni, Kaltoum, Raymond Queneau et un relativisme drôlatique, juste après Nick Waterhouse, Song for Winners. Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Zeina Birached.
À l'époque heureuse où j'avais bâti mon nid tout en haut du grand palais de l'immense royaume de Tachycardie. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et 3 fonds 8 et 8 fonds 16 de Tachycardie. Ce n'était pas un bon roi. Il détestait tout le monde, et tout le monde dans le pays le détestait aussi. La solitude et la chasse étaient ses passe-temps favoris. Enfin, pour tout vous dire, nous n'étions pas amis.
En 1953, Paul Grimaud adapte le conte d'Andersen, La bergère et le ramoneur. En 1980, il tire de cette adaptation l'un des chefs-d'œuvre de l'animation française, Le roi et l'oiseau, avec des dialogues de Jacques Prévert, disparu 3 ans avant la sortie du film. Zeina Birached, je vous laisse nous en parler. On disait hors antenne que c'était terriblement mélancolique et aussi très drôle. Mais qu'on pleurait souvent petite en regardant ce dessin animé.
Oui, c'est un dessin animé que j'ai beaucoup, beaucoup regardé quand j'étais enfant. Et pour la petite histoire... Comme c'est un film français, les magnétoscopes au Liban à l'époque, dans les années 80-90, étaient calibrés selon le système colorimétrique américain. Et donc, tous les films français étaient en noir et blanc. Et donc, j'ai d'abord vu, je ne sais pas, peut-être 100, 200, 300 fois, Le Roi et l'Oiseau en noir et blanc. Et je n'ai découvert beaucoup plus tard, en fait, en arrivant en France, un jour j'étais à la FNAC, je faisais la queue à la caisse et je vois la couverture du DVD Le Roi et l'Oiseau et là je me rends compte qu'il est en couleur.
Waouh ! En plus avec des dessins à la gouache sublimes.
Oui, qui sont sublimissimes. Et alors c'est drôle, après je me demande, c'est-à-dire que pendant toute mon enfance, la langue française, en tout cas celle des films, était très liée au noir et blanc. Et bon, alors évidemment, c'est magnifique les dialogues de Prévert. Là, ne serait-ce que l'extrait qu'on a écouté, déjà la façon de poser les mots, cette langue. Enfin, c'est une grande émotion à chaque fois. Alors, on pleure, bien sûr, parce que c'est très triste, et on sourit des trouvailles poétiques de Prévert sur ce roi de Tachycardie. Pour moi, c'est un mélange extraordinaire de tristesse, trouvailles poétiques, joie, avec une galerie de personnages superbes. Et ça fait partie peut-être du tissu des choses dont je me souviens, que j'ai connues, ou en tout cas que j'ai rencontrées étant enfant, et qui, je pense, m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui, voilà, de façon totalement inconsciente, évidemment, qui m'accompagne encore aujourd'hui.
Ce film, Le Roi et l'Oiseau, je l'ai revu grâce à vous, Zeina Birached, puisque je l'ai vu beaucoup petite, mais je ne l'avais pas revu depuis. Et déjà, je me suis rendu compte que le roi, c'est ce que je vous disais hors antenne, le roi, en fait, n'est pas si terrible que ça au début. Il est très solitaire et il chasse. Bon, c'est vrai, il chasse.
Il est complexé aussi.
Il est complexé.
Parce qu'il louche.
C'est vrai qu'il louche et il est triste. Et puis, il se fait remplacer par son double. Un double qui sort d'un tableau. Oui. Et lui est absolument terrible.
Oui.
Mais les
personnages... C'est lui le vrai méchant.
Non, il est très méchant. Mmh. Mais les personnages les plus mélancoliques du film, c'est pas la bergère et le ramoneur qu'on poursuit pendant tout le film, ni le peuple qui est enfermé dans les bas-fonds et qui ne voit pas le soleil. Les plus tristes du film, je me suis rendu compte en le regardant, ce sont les lions et le robot destructeur.
Oui, c'est bien vu ça. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser à l'aveugle qui joue de l'orgue de barbarie, mais c'est vrai que les lions sont d'une tristesse infinie. Et d'ailleurs, la dernière image, ce film se termine sur l'image du robot qui est complètement prostré sur une ville en ruine. C'est vrai que ce sont eux les vrais tristes.
Bon bah reprenons-nous, je crois que j'ai cassé un peu l'ambiance. Votre autre film anti-spleen, Zeina Birached, est revenu plusieurs fois dans l'émission, ce qui est une preuve de son efficacité. Ah. Et il y a un oiseau dedans aussi, c'est The Party de Blake Edwards, sorti en 1969.
Chef d'œuvre.
Vraiment, on peut le revoir 20 fois, on rit toujours autant.
Oui, avec Peter Sellers,
une
dans
belle
le rôle
âme.
De Rundivi Bakshi. Là aussi, c'est un film que j'ai vu pour la première fois quand j'étais gamine. Et voilà, c'est le comique de situation auquel on rigole encore. Enfin, c'est-à-dire, on rigole même sans voir la scène. C'est ça que je trouve super. On retrouve un peu ça dans Franquin. En tout cas, moi, parfois, enfin, voilà, il suffit juste de me souvenir d'une expression, d'un moment du film. Et enfin, voilà, sans avoir
vous réjouissez toute seule.
Oui, tout à fait.
Après la beauté esthétique du roi et de l'oiseau, évoquons les tableaux, les peintres et les œuvres d'art que vous affectionnez, Zeina Abi Rached. Je vous cite, « J'ai eu des larmes de joie et d'émotion devant un Titien, un Velázquez, un Jérôme Bosch, le site de Persépolis en Iran ou celui de Bosra el-Sham en Syrie. Mais s'il ne fallait en garder qu'un, ce serait Vermeer. » Alors on va dire un petit mot sur chacun d'entre eux. On commence par le néerlandais Jérôme Bosch, qui est le plus proche de la bande dessinée finalement. Il a un côté très illustration, Jérôme Bosch.
Oui, c'est vrai. C'était une rencontre donc que j'ai faite au Prado il y a une dizaine d'années. Je me trouvais à Madrid tout à fait par hasard. En fait, c'était absolument pas prévu. J'ai eu un problème de connexion d'avion. Donc c'est des moments qui sont un peu des parenthèses, comme ça, des poches où on se retrouve dans un lieu où on n'est pas censé être. Et là, je me suis dit bon, j'ai 4 heures, je vais aller au Prado. Et quelle bonne idée. Goya, Velázquez, le Jardin des Délices de Jérôme Bosch qui était au sous-sol à l'époque, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Et pour ma chance, ce jour-là, il n'y avait personne, donc j'étais seule devant cette peinture et je ne l'avais jamais vue en vrai et c'était extrêmement émouvant. Ça m'a rappelé une sensation que j'avais quand j'étais enfant. Enfin, je pense que la première fois que j'ai compris ce qu'était la mélancolie, je devais avoir 4 ou 5 ans. En fait, mon père avait l'habitude d'écouter de la musique classique très très fort à la maison. Et c'était pendant la guerre, donc rétrospectivement, je me suis dit que c'était peut-être une façon pour lui de maîtriser un peu le volume sonore de la ville et d'imposer de la beauté de la musique au-dessus des francs-tireurs et des bombardements. Et donc, il écoutait de la musique très très fort et j'ai eu comme ça la chance de découvrir des œuvres musicales très très, très jeunes. Et je me souviens que ça me faisait pleurer. Et j'ai mis un temps pour comprendre que c'était pas des larmes de, j'étais toute petite, hein, des larmes de tristesse, mais plutôt des larmes justement d'émotion,
de beauté
et de beauté. Et c'est un peu ce sentiment-là qui revient quand je suis devant des tableaux de maîtres. Et souvent c'est lié à l'effet de surprise aussi, parce que le Titien, c'était l'amour sacré, l'amour profane à la Villa Borghese à Rome. On est arrivé juste avant l'heure de fermeture, et donc j'ai supplié le gardien de me laisser juste jeter un coup d'œil et je suis tombée sur ce tableau-là et c'était merveilleux.
Donc c'est vraiment comme des rencontres humaines, Zeina Abi Rached et Vermeer. Je suis curieuse puisque vous dites que s'il ne fallait en garder qu'un, ce serait Vermeer.
Vermeer, peut-être parce que finalement la mélancolie, j'ai l'impression que elle vient aussi du sentiment du temps qui passe et qu'on ne revivra plus jamais ces instants. Et c'est vrai que dans la peinture de Vermeer, il y a toujours justement cet instant suspendu, cette femme qui est en train de boire quelque chose dans un verre et la lumière qui vient cogner le cristal du verre. C'est vraiment le présent dans la lumière et dans toute l'émotion que ça suscite. Et j'en ai pris des trains pour aller voir les Vermeer en vrai.
Et justement, est-ce que vous êtes allé aussi sur le site archéologique de Persépolis en Iran, dont l'édification, rappelez-vous tous, commence en 521 avant Jésus-Christ sur ordre de Darius Ier, et qui a pour but d'accroître la grandeur de l'Empire perse achéménide?
Oui, j'y suis allée l'année dernière, j'ai eu la chance de faire un petit voyage en Iran avec des amis. Et bien sûr, là aussi, c'était un rendez-vous que je m'étais... que je m'étais fixée il y a déjà très longtemps. Je savais que j'allais aller voir Persépolis un jour. Et donc c'était là, c'était l'année dernière. Et je me souviens que j'ai eu du mal à partir. En fait, je voulais absolument... c'était physique, en fait. J'étais immobilisée devant ces personnages de profil, alors que j'avais déjà vu dans les musées, hein, ces beaux barbus bouclés, avec les grands yeux en amande, et puis des bras très musclés, mais avec toujours la délicatesse d'un bracelet avec une petite fleur ciselée. Je me souviens d'une émotion intense devant évidemment ces figures-là, mais aussi devant l'idée du geste, l'idée que quelqu'un un jour a tracé ce profil et l'a gravé dans la pierre et qu'on peut encore aujourd'hui les voir.
Parce que ce qui est beau, c'est qu'on trouve des bas-reliefs dans les ruines.
Oui.
Et alors, Bosra el-Cham en Syrie, où l'on peut voir les vestiges d'un théâtre romain du IIe siècle, des ruines de monuments paléo-chrétiens, des mosquées, parmi les plus anciennes d'ailleurs du monde arabo-musulman.
Oui.
Vous y êtes allé aussi?
J'y suis allé il y a très longtemps, juste après la guerre du Liban, quand les frontières étaient ouvertes à nouveau, qu'il était facile de circuler. On a fait un voyage avec mes parents en Syrie. Mes parents avaient envie de nous montrer justement... C'est-à-dire qu'après la guerre, il a d'abord fallu explorer le territoire du Liban, parce que c'est vrai que comme Beyrouth était coupé en deux, pendant très très longtemps, pendant toute mon enfance, mes 10 premières années, j'ai connu Beyrouth Est et même une partie de Beyrouth Est, parce que c'était très difficile de circuler. Et donc toujours dans cette même optique de réappropriation du territoire, ils ont voulu nous emmener en Jordanie, en Syrie. Et donc on avait fait un voyage en Syrie en voiture. Vous savez que Beyrouth est à 4 heures de Damas, donc c'est vrai que c'est assez facile d'y aller. Et on s'était retrouvés à Bosra el-Cham, qui est une ville construite en basalte noir. Donc déjà, esthétiquement, c'est extrêmement beau. Et là aussi, voilà, l'émotion de découvrir cette ville et ce théâtre antique, il devait être un des premiers que je voyais, parce que j'étais vraiment toute petite. Et je me souviens qu'il a le dénivelé est très très fort. Enfin, les gradins sont l'angle, disons, des gradins est extrêmement marqué, et c'était assez vertigineux en fait.
Dans toute votre œuvre, Zeynab Jrached, on trouve l'importance de la géographie, de la cartographie, des atlas. Je pense même à votre dernier ouvrage, Prendre refuge, avec Mathias Sénard. L'un des personnages est architecte. Il y a aussi la carte des étoiles. Tout joue un rôle et vous avez une notion très forte de l'espace. Ça vient notamment de votre histoire. Et l'un de vos remèdes, c'est marcher dans les rues de Beyrouth. Vous nous avez promis une anecdote rigolote, bien que beaucoup de souvenirs ne le soient absolument pas. À cet endroit.
Oui.
Beyrouth qu'on retrouve dans presque tous vos albums.
Oui, Beyrouth qui est très présente dans mon travail, qui est au centre d'ailleurs de quasiment tous mes livres. Marcher dans Beyrouth, ça peut avoir l'air d'une drôle d'idée, parce qu'en fait c'est une ville qui est pas du tout faite pour les piétons, et de moins en moins d'ailleurs. Les trottoirs sont très étroits, et très souvent les voitures se garent sur les trottoirs, donc c'est vraiment c'est casse-cou, il faut avoir vraiment envie. Et moi j'adore ça en fait, je pense que c'est la seule façon de vraiment rencontrer Beyrouth, c'est vraiment de marcher, de contourner les obstacles. Et ça me fait toujours un bien fou de retrouver évidemment les éléments d'architecture, mais aussi le jasmin qui saute d'un qui s'immisce entre deux pierres, des bougainvilliers. Beyrouth est une ville qui est très très arbrue, si ça existe, je ne sais pas, contrairement à ce qu'on pense. Et ce qui est rigolo, c'est que on est sûr, quand on marche à Beyrouth, quand on est de Beyrouth en tout cas, et qu'on marche en ville, on est sûr qu'au bout de, allez, peut-être 5 minutes, on va entendre une voiture s'arrêter et quelqu'un nous dire « Où vas-tu ? Où tu vas ? Pourquoi tu marches ? Tu veux pas que je te dépose ?» Alors même qu'on ne va nulle part, justement. On se promène, on se balade. Moi, j'aime bien y aller au hasard. Et à tous les coups, il y a quelqu'un que je connais, un voisin, un ami de la famille ou le meilleur ami du frère du voisin de ma tante qui veut absolument me déposer quelque part. Et c'est très amusant parce que du coup, on se retrouve dans des endroits où on n'a absolument pas... On n'a absolument pas prévu d'aller j'aime beaucoup ce rapport, au-delà du rapport du piéton qu'on peut entretenir, qui peut être un peu compliqué dans Beyrouth, ce rapport très proche, rapport humain très proche où tout d'un coup, enfin c'est très facile de parler aux gens, de créer des relations, et ça c'est quelque chose qui me revigore.
À nouveau cette idée de rencontre. Votre vie est faite de rencontres avec les choses, les objets, la beauté, les gens. Dans un instant, on va continuer à en évoquer d'autres. On va évoquer surtout un gaffeur légendaire de la bande dessinée belge. Le temps d'écouter le morceau Jardin de Canine.
Ouvre la porte du jardin que personne n'a poussé.
Ce pas à pas, ta boussole et ma voix.
Emprunte l'allée des rosiers que personne n'a emprunté.
Les fleurs en hiver.
Tout le long du bassin, je respire ton parfum, ton venin qui se mêle au mien. Et en ce moment, le chagrin se transforme en tourment. Retourne la fontaine de marques dorées à l'océan. quelqu'un.
Nous sommes avec Zena Abdirached dans Remède à la mélancolie sur France Inter. Je vous avais promis une légende de la bande dessinée belge. Vous avez choisi la bande dessinée culte de Franquin, un dessinateur qui a été sujet à la dépression. Et je le dis parce que la plupart des gens qu'on va aborder dans cette partie ont été sujets à la dépression. Et il compte d'ailleurs parmi vos influences, je crois.
Oui.
Ouais. Et alors, ce sont les célèbres étourderies de Gaston Lagaffe, personnage créé en 57, avec lequel vous avez appris à lire. Vous avez appris à lire aussi en déchiffrant Tintin, Astérix et les bandes dessinées de vos parents.
Oui. Mes parents avaient une bibliothèque pleine d'illustrés, comme on disait à l'époque. Et je plongeais dans justement les Tintin, Astérix et Franquin, etc. Quand j'étais enfant. Et Franquin, donc évidemment, c'est aussi quelqu'un qui a écrit Les Idées Noires. Donc
ouais,
c'est...
la série Idées Noires pendant sa dépression.
Oui, voilà. Et il est toujours présent parce que justement, j'en parlais un peu tout à l'heure sur la mémoire du gag, en fait. Je n'ai même plus besoin de lire ces gags, je ris ne serait-ce qu'en me les remémorant. Il y a ce fameux gag du gâteau que Gaston est en train de préparer, puis il s'absente 2 minutes de son bureau et le gâteau reste sur son bureau, et là arrive le Braque et Prunelle et se demande ce que c'est que cette forme bizarre. Alors il y a toute une série de cases où il triture ce truc là dans tous les sens. À un moment donné, ils s'en servent comme trampoline, et puis à la dernière case, Gaston revient et s'écrit « Mais Prunelle, qu'est-ce que tu fais assis sur mon gâteau ?»
Oui, parce qu'il pense que c'est un pouf.
C'est exactement.
C'est dans la gaffe, nous gâte.
Bon, c'est un peu difficile à décrire à l'antenne comme ça sans l'image, mais c'est vrai que c'est des planches qui m'ont accompagnée pendant toute mon enfance et qui me font rire encore aujourd'hui.
Gaston Lagaffe, qui serait à mon avis insupportable dans le réel parce qu'il fait quand même des crises de flemme,
oui.
Est un rêveur, un inventif, et il est entièrement dénué de méchanceté.
C'est vrai, ça. C'est un gentil.
Oui.
On l'aime.
On l'aime, on aimerait l'avoir comme ami, mais pas comme collègue de travail.
Peut-être pas.
Zena Abdirached, pendant la guerre, il y avait un lieu mythique pour vous, c'était la librairie des frères Tarazi, le seul endroit à Beyrouth où l'on pouvait trouver des bandes dessinées étrangères et récentes. C'est là-bas que vous avez découvert Tardi, Gottlieb, Bretéché et Bilal.
Et David B. Et Marc-Antoine Mathieu.
Ah, merveilleux, ouais. Absurde.
Oui, hein. Tout de même. Oui, c'est un lieu mythique parce que qui n'existe plus malheureusement, comme beaucoup de lieux mythiques à Beyrouth. C'était un lieu très important parce que c'était à l'époque, juste après la guerre, c'était la seule librairie de bande dessinée au Liban. Et c'est vrai que je suis passée du coup de toute la bande dessinée franco-belge que je lisais parce que mes parents avaient ça chez eux, à d'un coup, mais vraiment du jour au lendemain, tous les auteurs que vous avez cités. Et c'était un vrai choc esthétique. Aujourd'hui, la librairie Tarazi n'existe plus. En fait, pour la petite histoire, elle était. Ces libraires avaient ouvert. Donc justement leur librairie sur l'ancienne ligne de démarcation rue Monod. Donc c'était vraiment la ligne de frontière qui séparait Beyrouth en deux. Et pendant toute mon enfance, cet endroit-là était un lieu interdit et confisqué. Et d'aller à la librairie, bon, évidemment, quand j'y allais, ce n'était plus la guerre et on pouvait tout à fait circuler librement. Mais Beyrouth a gardé en mémoire, en tout cas pour moi, quand je suis à Beyrouth encore aujourd'hui, se superpose à la ville que je vois aujourd'hui, la ville d'avant et toutes les strates en fait de topographiques de la ville des années 90, des années 80, avec peut-être la strate en dessous, la ville de qu'on nous a transmise par les récits de nos parents, mais aussi de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'écrire, en fait, cette histoire, l'idée de garder une trace de cette mémoire qu'on nous enseigne même pas à l'école, puisque les
livres d'histoire s'arrêtent en 75.
Voilà.
Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui.
Et vous dites aussi, Zena Abdirached, que les gens sont frappés d'amnésie.
Oui, à tous les niveaux. Ne serait-ce que si on regarde un peu comment la ville a été reconstruite pendant la guerre. On a fait table rase sur énormément de choses. C'était une volonté politique, hein, de pas justement... peut-être pour tourner la page et puis surtout pour ne pas mettre la poussière un peu sous le tapis, en fait. Justement pour ne pas se coltiner un peu le... Pas qu'un peu d'ailleurs toute l'histoire nationale. On est amnésique sur bien des sujets. Et je pense à Pérec, là, en parlant, en fait, dans Espèce d'espace, il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup marquée, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire de la bande dessinée, ou en tout cas que je me suis mise sans prémédition à faire de la bande dessinée, comme dans un espèce d'élan très très fort et de l'ordre de l'urgence en fait. À un moment donné, Perec parle de l'écriture dans Espèce d'espace et il dit quelque chose comme, j'espère que je vais pas écorcher la phrase, il dit écrire, arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse. Et c'est le précise que je trouve magnifique dans cette phrase. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire quand je parle de Beyrouth et quand je dessine Beyrouth, même quand je dessine le Beyrouth que j'ai pas connu, donc celui des années 50, dans le piano oriental, même avant la destruction.
Parce que ça parle de votre arrière-grand-père, le piano oriental.
Oui, tout à fait. C'est d'essayer de retrouver justement la précision des lieux, du mobilier urbain, de la forme d'un bouton de porte ou d'un nom de rue, parce que ce sont des identitairement. Ce sont des choses qui sont très importantes parce qu'elles nous ont été arrachées, qu'elles ont disparu, tout simplement.
Vous leur redonnez existence sur le papier.
J'essaye, en tout cas.
Zeynab Jirachet, voici un relativisme qui vous appuie autant qu'il vous fait rire.
Do you have a problem in life? No? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? Yes? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? No. Then why worry? Isn't it? Why worry?
Extrait d'une conférence de l'Indien Gaur Gopal Das, ancien ingénieur électronicien devenu une sommité dans le domaine du développement spirituel. Je traduis très rapidement pour les auditeurs. Vous avez un problème dans la vie? Non. Alors pourquoi s'inquiéter? Vous avez un problème dans la vie? Oui. Vous pouvez faire quelque chose? Oui. Alors pourquoi s'inquiéter? Vous avez un problème dans la vie? Oui. Vous pouvez faire quelque chose? Non. Alors pourquoi s'inquiéter? C'est un système de pensée que vous avez choisi, Zeynab Jirachet, qui ressemble beaucoup au stoïcisme, en fait, n'attacher d'importance qu'à ce qui dépend de nous et ne pas s'en faire pour le reste. Est-ce que vous y arrivez?
Absolument pas.
Vous nous rassurez. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec la phrase numéro 2. Parce que vous avez un problème dans la vie? Oui. Vous pouvez faire quelque chose? Oui. Alors pourquoi s'inquiéter? Bah, on s'inquiète puisque la chose qu'on peut faire est peut-être très effrayante et peut-être qu'elle ne va pas fonctionner.
Bien sûr. Non, mais c'est plus un gag en fait. Il faut pas vraiment. C'était pour le plaisir de juste d'écouter cette voix et évidemment les choses sont beaucoup plus compliquées que ça et bien sûr on. Bon, c'est pas... Enfin, voilà.
D'accord, ça...
Que dire de plus?
Bah non, rien. Il est temps de jeter une oreille à vos antidotes musicaux. Le premier est un morceau de l'opéra de 1787, Don Giovanni de Mozart. Le livret est signé, comme celui des Noces de Figaro et de Così fan tutte, par Lorenzo da Ponte.
Madame mia, il catalogue è questo delle belle che amò il padron mio. Un catalogo egli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Con fra queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse e baronesse, marchesine, principesse e bandone, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna. Mille tre. Non con queste contadine, cameriere e cittadine, ma con che se baronesse, marchesine, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Zena Abdirachad qui vient de nous faire entendre l'air de Leporello, Mille Lettres, acte en scène 5 du Don Giovanni de Mozart. Le chef d'orchestre, c'est Carlo Maria Giulini et c'est interprété par Giuseppe Taddei. Là, le valet de Don Giovanni, Leporello, met en garde Donna Elvira et dresse un catalogue de toutes les femmes séduites par son maître. Pourquoi ce choix?
Un inventaire. Ouais. La Prévert, une fois de plus. Pour l'humour de Da Ponte, celui de Mozart. Voilà, la création d'un personnage comme Leporello, qui est quand même hyper réjouissant. Et puis aussi pour peut-être cette répétition, en fait, qu'on a dans ce chant. Alors, en effet, c'est une liste en fait qu'il lui dresse et moi ça me fait toujours ça me touche toujours en fait, ça me fait toujours sourire. Pourtant je l'ai écouté des milliards de fois, je l'ai vu à l'opéra de temps en temps et ça me fait toujours du bien
d'entendre qu'en Espagne elles sont déjà 1003
d'entendre ce passage en particulier, mais en général l'opéra. Et l'opéra de Mozart en particulier, je me souviens d'une représentation au Théâtre des Champs-Élysées il y a quelques années de La Flûte Enchantée de Mozart dans une scénographie de William Kentridge. Extraordinaire. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, en fait, je pense, dans le fond.
Pourquoi pas?
Oui, une scénographie, des costumes, des décors de théâtre ou d'opéra, ça c'est quelque chose qui me... C'est un peu un fantasme, un rêve d'enfant. Oui.
ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي 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 اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي
1969, Alf Leila ou Leila, les mille et une nuits de la diva égyptienne Oum Kalthoum. C'est un morceau qui dure une quarantaine de minutes. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous évoque?
C'est le tarab, en fait, que j'avais envie d'entendre avec vous. Donc, comment traduire le tarab? C'est une espèce de transe musicale où, en effet, le morceau dure 45 minutes, ou peut-être un peu moins. Et ce qui est très beau, c'est que s'installe progressivement une espèce de tension, parce que dans ce morceau, en tout cas, mais souvent dans les chansons d'Oum Kalthoum, elle met du temps à arriver sur scène. Et donc, on a parfois une introduction qui dure 10, 12, 13, 14 minutes, où là, c'est une espèce de préparation à la transe poétique. Et puis, tout d'un coup, quand elle apparaît, et dès le premier mot, il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Quelque chose de très vibrant, de très fort. Et là aussi, ça fait du bien de se rappeler que ça existe quand on est en proie à la mélancolie.
J'ai appris en préparant l'émission, Zena Abdirachad, que Oum Kalthoum, son père, était imam et que lorsqu'elle avait 10 ans, il l'a déguisée en garçon pour la faire rentrer dans sa troupe de jeunes chanteurs religieux. Et qu'adolescente, elle s'est produite d'abord en garçon.
Oui. C'est vrai, tout à fait, oui, oui.
Et vous, Zena Abdirachad, enfant, vous vouliez devenir chanteuse?
Je voulais devenir groupe de rock.
À vous toute seule, oui.
Oui, puis finalement, j'ai fait autre chose.
Et même
tant mieux pour vos oreilles. Je chante un peu comme ça, mais bon, en tout cas pas tout de suite.
Dans votre court-métrage d'animation réalisé pendant vos études aux Arts Déco, Mouton, dans le générique de fin, à la guitare, c'est Philippe Abdirachad.
Oui, c'est mon frère. C'est mon frère qui lui est cuisinier, mais qui a toujours fait énormément de guitare et qui chante du blues. Il a un groupe au Liban qui s'appelle The Real Deal Blues Band. Et c'est lui qui a fait toute la musique du petit film Mouton qu'on peut trouver sur YouTube. Et c'est lui surtout qui a fait tous les bêlements de Mouton. On s'était beaucoup amusé à enregistrer ça.
Ah oui.
Et c'est lui d'ailleurs qui m'a fait découvrir le blues. On va pas tellement écouter de blues ensemble aujourd'hui, mais...
On va écouter quelque chose qui donne le blues.
Voilà.
Si vous êtes d'accord.
Allons-y.
Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today. And fallen leaves said she hadn't heard the news.
Le titre Riverman de Nick Drake pour illustrer la chose à éviter à tout prix, à moins de se noyer délibérément dans la mélancolie. Pour vous, Zena Abirached, c'est d'écouter Leonard Cohen ou Nick Drake au crépuscule en hiver à Paris. Et vous ajoutez, évidemment, je le fais assez souvent. Alors, je précise pour les auditeurs que Nick Drake était connu pour ses accès dépressifs, qu'il est mort d'une surdose de médicaments qu'on soupçonne être un suicide. Leonard Cohen ne se cachait pas non plus de ses épisodes dépressifs. Et en fait, c'est plutôt rassurant d'avoir des artistes qu'on admire comme ça, qu'on voit aussi sujet à ce genre de mélancolie, qui est la plus grave dans le catalogue des maladies psychiatriques. D'ailleurs, mélancolie, c'est la dépression nerveuse la plus grave. Pourquoi vous le faites souvent, Zena Abirached? Vous avez un petit côté masochiste comme ça.
Non, mais oui, peut-être. Non, je ne sais pas. Si. Masochiste, sans doute pas. Mais...
On l'a tous un petit peu.
Mais c'est très délicat, en fait, la mélancolie. Parce que, mais justement, dans le générique de l'émission, à un moment donné, je ne sais pas qui dit cette phrase, ni à qui appartient cette voix, mais quelqu'un dit quelque chose comme « Est-ce que vous voulez vraiment guérir ?» ou je ne sais plus exactement.
C'est Dr. Knock.
Ah, c'est Knock ? Oui, ça vous gratouille ou ça vous chatouille. c'est un peu ça la vraie question. Est-ce qu'on a envie de plonger complètement dedans ou de la garder à distance ? Et donc, j'entretiens une espèce de relation un peu ambiguë avec la mélancolie. Et en effet, Nick Drake, pour ça, Leonard Cohen, mais Nick Drake, c'est un bon accélérateur. Alors, si on n'est pas à Paris, qu'on est dans un train et qu'il pleut et que les vitres sont embuées, c'est bien aussi. Ça peut marcher.
Mais vous pleurez parfois, ça vous arrive ?
Dans la vie ?
Non, est-ce que ça vous arrive, Zena Abirached, de vous dire « Je vais me faire un spécial dramatique, je vais éteindre la lumière, écouter Nick Drake et me faire un peu d'auto-apitoiement ?»
Non, pas délibérément, quand même.
Non,
pas à ce point.
D'accord.
Pas à ce point, mais je sais que c'est possible.
Oui, ça nous rassure.
Un jour de canicule sur un véhicule où je circule, gesticule un funambule au bulbe minuscule, à la mandibule en virgule et au capitule ridicule. Un somnambule, l'acule et l'annule, l'autre articule, crapule, mais dissimule ses scrupules, recule, capitule et va poser ailleurs son cul. Une laprule, devant la gule Saint-Lazule, je l'aperçule qui discule à propos de boutule, de boutule de par-dessus. Salut.
En 1955, Yves Robert, sa compagnie et les frères Jacques enregistrent les célèbres exercices de style de Raymond Queneau, paru en 1947 et qui raconte 99 fois la même histoire d'une façon différente. Là, on vient d'entendre les homéoptotes, du nom de cette figure de style qui accumule dans une même phrase des mots dont les finales sont semblables. Zena Abirached, vous semblez sensible à la musique, aux jeux sur la langue, aux onomatopées, vous appréciez Bobby Lapointe, Prévert, Queneau. En fait, à la musicalité de la langue, les onomatopées, il y en a énormément, par exemple, dans votre œuvre, et d'en prendre refuge, j'en ai à chaque page.
Oui, quand je dessine, j'entends le dessin, et j'entends les formes que je trace, les personnages, et j'ai toujours très envie que le lecteur entende aussi les bruits de pas, le scritch-scritch de l'herbe sur les mollets quand on marche en Afghanistan. Alors, j'y suis jamais allée, mais j'imagine, en Afghanistan, près de la falaise de Bamiyan, et qu'on écrase quelques feuilles mortes, le scritch-scritch des pas, même le bruit de la nuit, en fait, quand on est en plein air, il y a toujours un grillon ou quelque chose qui marque sa présence par le son. Et c'est vrai qu'en bande dessinée, on a cette possibilité d'utiliser les onomatopées. D'en prendre refuge, ça m'a beaucoup servi à passer justement d'une histoire à l'autre, puisque ce sont deux histoires d'amour juxtaposées qui se déroulent dans deux endroits et deux époques différentes. Et c'est vrai que le son m'a permis de faire un peu la navette, justement, et pour embarquer le lecteur, pour faire justement l'aller-retour entre les deux histoires.
C'est un beau livre. À
Merci.
Découvrir, prendre refuge avec Mathias Sénard chez Casterman. Merci beaucoup, Zena Abirached, d'être venue dans cette émission.
Merci de m'avoir reçue, c'est un plaisir.
C'est donc Prendre refuge, paru chez Casterman, tout comme votre roman graphique Le piano oriental. Vos autres ouvrages sont publiés aux éditions Cambourakis. Et le 29 mars, à Fontenay-sous-Bois, au comptoir, vous faites une lecture dessinée et musicale du piano oriental. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont sur le site de l'émission. J'espère que votre humeur est aussi enjouée que celle d'un détective cheddar. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.